Acclamons la parole du Seigneur. Bien. Gloire au Seigneur. Comme je l'ai souligné, nous allons donc continuer avec notre pèlerinage à travers le Nouveau Testament afin de comprendre par la grâce de Dieu ce que la Bible entend par le Réma, cette parole qui sort directement de la bouche de Dieu. Car comme vous le savez tous, nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. Mais cette foi dont nous avons besoin pour interagir avec Dieu, cette foi dont nous avons besoin pour expérimenter la puissance de Dieu, cette foi nous vient du Christ, alléluia. Selon qu'il est écrit, la foi vient de l'écoute, littéralement, et par l'écoute du Réma du Christ. Amen. La Bible nous dit que dans le combat dans lequel nous sommes engagés, nous devons savoir manier l'épée de l'Esprit, qui est donc la parole de Dieu, et là aussi, qui est donc le Réma de Dieu. Attention, vous pouvez prendre des versets, les balancer au diable, sans que cela arrive à lui faire peur. C'est là que nous devons faire très attention. Que Dieu soit béni, alléluia. Nous allons donc continuer avec le même thème, et aujourd'hui c'est le cinquième épisode, oui ou non? Sixième. Ah, donc voilà, vous voyez, je suis un tout petit peu décalé. Donc, sixième épisode de notre, par rapport à notre thème, la parole de Dieu, le Logos et le Réma. Nous allons lire le texte que nous avons lu la fois dernière, à savoir Matthieu 14, et puis ensuite nous lirons Hébreux 12, les deux premiers versets. Commençons avec Matthieu 14, versets 22 à 34. 22 à 34, Matthieu 14. C'est donc cette histoire plus que surréaliste. D'abord du Seigneur qui marche sur les eaux d'une mer en furie, et puis ensuite du Seigneur qui donne la parole à Pierre, parole qui amène Pierre à marcher aussi sur l'eau de la mer, une eau agitée, une eau troublée. Verset 22, ensuite, il obligea le disciple, donc le Seigneur obligea le disciple à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir envoyés, Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, donc elle était largement avancée, était au milieu de la mer, malmenée par les vagues. Car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, « pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ils achevèrent la traversée et arrivèrent dans le pays de Génézareth. Amen. Quand lui intervient, nous avons l'assurance d'aller jusqu'au terme de notre voyage. Rien ne peut nous arrêter. Que Dieu soit béni. Et enfin, Le dernier texte, Hébreux 12, le deux premier verset, où il est dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien, nous revenons à notre histoire. Une histoire extraordinaire, surréaliste, d'un homme qui était de la même nature que nous, mais qui à un moment de sa vie a eu à expérimenter la puissance du Seigneur de manière incroyable, de manière formidable. C'est donc Pierre. Mais avant d'aller plus loin, revenons un tout petit peu au commencement. Tout commence par cette injonction du Seigneur envers ses disciples. Il les oblige, littéralement. Il ne demande pas leur avis, il ne les supplie pas, il ne leur suggère pas, mais il les oblige. Et j'ai essayé le dimanche dernier de regarder un tout petit peu aux raisons qui avaient poussé le Seigneur à les obliger. Il venait de vivre des moments quasi épiques. Il venait de vivre, mes amis, un temps plus que mémorable. Car à partir du repas d'un jeune garçon, repas constitué de 5 pains et de 2 poissons, le Seigneur est arrivé à nourrir plus de 5 000 personnes. Alléluia. Du repas d'un seul et encore un petit garçon, par sa puissance, il a transformé ce petit repas en un gigantesque pique-nique au cours duquel tout le monde a mangé à sa faim. Alléluia. Quand Jésus est là, eh bien l'impossible devient possible. Tout ce qui se trouve dans ces deux récits, que ce soit la multiplication des pains, ou alors que ce soit un Pierre qui marche sur les eaux, défie la logique humaine. Mes amis, va à l'encontre de nos structures mentales, défie la puissance cérébrale et de l'homme, nous montre une fois de plus qu'avec Dieu tout est possible. Mes amis, le but de ce message et de cet enseignement sur les deux réalités de la parole de Dieu, c'est d'amener chacun de nous à réaliser qu'avec Dieu, eh bien tout est possible. C'est d'amener chacun de nous à ne jamais limiter Dieu, à lui faire confiance, mes amis, peu importe le contexte, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et gloire à Dieu. Il les oblige à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant que lui, entre-temps, renverrait les foules. Donc les voilà dans la barque. Les voilà pointer leur barque dans la direction qui leur avait été imposée par le Seigneur. Ils sont dans la barque parce que le Seigneur a voulu qu'ils soient dans la barque. Ils sont en train de naviguer dans la direction que le Seigneur leur avait indiquée. Donc, ils sont pleinement dans la volonté de Dieu. Au commencement, au début de cette navigation, tout se passe à merveille. Vous voyez, certainement, à bord de la barque, pendant qu'ils ramaient, ils ne cessaient de parler de l'expérience qu'ils venaient de vivre. Comment est-ce possible? Avec seulement 5 pains, 1, 2, 3, 4, 5, et 2 poissons, 1, 2, le maître est arrivé à nourrir autant de personnes. Les gens ont mangé à leur faim, au point même qu'il est resté encore beaucoup de pain et de poissons. Certainement, ils étaient là à partager, à se dire, mais c'est pas possible, quelle expérience inoubliable. Tout se passe bien, et puis le chant s'égate. Le chant s'égate, la Bible nous dit un vent contraire. Un vent contraire s'est levé et la mer est devenue de plus en plus houleuse, de plus en plus instable. Et toute cette agitation de la mer a eu pour conséquence que leur barque tangue, ballottée, malmenée par les vagues, d'une mer en furie. Tout cela les a amenés, mes amis, à redoubler d'efforts parce que le vent leur était contraire. Et à cause de tous ces éléments déchaînés de la nature, ils ont eu de la peine à ramer. Et puis la nuit tombe. C'était le soir, évidemment. La nuit était avancée. Il était presque vers 3 heures du matin. En lutte contre les éléments déchaînés de la mer, la barque ballottée, malmenée par les vagues, la Bible nous dit, vers 3 heures du matin, Jésus, le Seigneur de gloire, alla vers eux en marchant sur les eaux de la mer. Gloire à Dieu. Ils sont là dans cette barque, plongés dans l'épaisse ténèbre. Ils sont là en lutte, mes amis. Allons-nous arriver à destination? Il nous avait dit que je vous précède. Nous nous retrouvons seuls. S'il avait été avec nous dans la barque, nous sommes sûrs que nous n'aurions pas connu ce que nous sommes en train de connaître. Évidemment, c'est la panique, c'est le désespoir. Il fait noir, que faire? Épuisé. Et c'est justement à ce moment-là que quelque chose se passe. Dans cette épaisse obscurité, il voit une silhouette, quelqu'un ou quelque chose s'est dirigé vers eux en marchant sur les eaux, en se déplaçant sur les eaux. Et en voyant cette silhouette bouger et s'approcher, malgré une mer agitée, s'approcher de leur barque, ils eurent peur, une peur étrange. S'est saisie de chacun d'eux, troublés et maîtrisant difficilement, mes amis, leur panique, ils crièrent, « C'est un fantôme! C'est un fantôme !» C'est un cri de désespoir. Comme si cela ne suffisait pas. Nous sommes en danger, voilà qu'un fantôme apparaît. Oui, ils sont troublés, ils sont agités dans leur cœur, plus que la mer qui faisait volonté tanguer leur barque. Mais une voix familière, une voix affectueuse les interpella, et ce, mes amis, en dépit du mugissement de la mer, en dépit du bruit des vagues et des houles. Ils ont quand même fini par entendre cette voix. Que leur dit-il? Rassurez-vous, c'est moi, prenez courage. Littéralement, comme nous l'avons vu, prenez courage. Moi, je suis. N'ayez pas peur, oh alléluia. Ego, hemi. Moi, je suis. Gloire à Dieu. C'est donc la voix du bon berger qui vient au secours de ses brebis en détresse. C'est donc la voix du grand je suis qui s'approche tout doucement, sans être inquiété par la mer en furie, par le vent contraire, par tous ces éléments de la nature déchaînés. Une voix qui leur était familière, celle de Jésus. Oui, c'est la voix de Jésus. Jésus, le grand je suis. La voix de celui qui n'abandonne jamais ses disciples. Même lorsqu'ils ont l'impression qu'il les a oubliés, jamais. Nous pouvons abandonner Dieu, mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Il vient à leur secours, voyez-vous. Et il est en train de marcher sur l'eau. Comment est-ce possible? Voyez-vous, comment est-ce possible? Naturellement parlant, physiquement parlant, scientifiquement parlant, eh bien, humainement parlant, l'homme ne peut pas marcher sur l'eau. Mais comment expliquer que le Seigneur, lui, vient vers nous en marchant sur l'eau? Mes amis, lorsque le Seigneur est là, lorsque le grand Je suis est avec nous, nous pouvons alors défier relever n'importe quel défi. Encore une fois, faisons tout pour être là où Jésus est, et non pas chercher à amener Jésus là où nous sommes. C'est lui qui est Seigneur et pas nous. Nous sommes ses serviteurs, voyez-vous. Donc, c'est Jésus. Tout le monde réalise que c'est lui. Sa voix leur était familière. Donc, leur intelligence, leurs sentiments, bref, tout en eux, les amène à cette conclusion, que c'est bien Jésus, c'est bien le Fils de Dieu, c'est bien le Seigneur de gloire. Alors, Pierre fait signe aux rameurs, à ceux qui ramaient. Il leur demande, mes amis, de s'arrêter. Et là, ils réalisent évidemment que c'est bien Jésus. Tous, mes amis, ont le souffle coupé. Tous, comme je l'ai souligné la fois dernière, sont bouche bée. Personne n'ose prononcer un mot. C'est Jésus qui est debout sur l'eau agitée. La même eau qui ballottait, qui malmenait leur barque. La même barque qui était soumise à des pressions contraires d'un vent de plus en plus fort qui les rendait instables, le même vent n'a pas pu faire quoi que ce soit face à Jésus. Il est debout sur l'eau agitée. Il n'est pas du tout inquiété par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Mes amis, je voudrais que cette vision du Christ qui domine tout puisse s'inscrire, puisse être imprimée dans notre conscience, qu'avec lui tout est possible. Il n'est pas du tout inquiété. Il ne s'agite pas et dit, attendez, non, debout, royalement, puissamment, oh alléluia. Alors Pierre encore lui, alors que tout le monde n'ose prononcer aucun mot, Pierre lui tout d'un coup ouvre sa bouche. Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur le saut de la mer. Je voudrais venir là où tu es, mais j'ai besoin que tu m'ordonnes. J'ai besoin que tu me donnes un ordre. En d'autres mots, Pierre dit, Seigneur, donne-moi un ordre d'aller vers toi sur le eau. Envoie-moi ta parole pour que cette parole me rende capable de venir jusqu'à toi. Évidemment, cette requête a plongé ses amis dans le ahurissement. Ils sont ahuris. Ils sont interloqués par la requête de Pierre. Ils se tournent vers Pierre, le regardant avec de gros yeux, en se disant, mais quelle requête stupide! Quelle demande bizarre, insensée! Comment peut-il demander au Seigneur de marcher sur le zoo. Voyez-vous, ils sont tous dans l'attente de la réponse du Seigneur. Qu'est-ce que Jésus va répondre à la requête de Pierre? Peut-être s'attendait-il à ce que Jésus réponde à Pierre en lui disant, « Attends Pierre, ne sois pas pressé. De toute façon, moi je suis en train de venir vers vous. Calme-toi petit. Je connais ton ardeur, ta fougue. » Écoute, essaye un peu de te calmer. De toute façon, je suis en train de venir vers vous. Peut-être s'attendait-il à cela. Mais le Seigneur répond. À la grande surprise des autres disciples, le Seigneur répond à Pierre, « Viens. » Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui donne une parole. Il lui dit, « Pierre, viens. » Venir où? Là où il était. Mais entre Jésus et Pierre, qui est encore dans la barque, il y a une réalité, mes amis, c'est-à-dire une mer agitée. Une mer avec des houles de plus en plus dangereuses. Allait-il braver tout cela? Comment Pierre réagit-il? Alors Pierre, il reçoit cette parole. C'est là que ça va commencer à devenir intéressant. Il reçoit cette parole. Il reçoit le rhéma. Ils sont à plusieurs dans la barque, mais cette parole lui est adressée à lui et à lui seul. Encore une fois, le rhéma est une parole spécifique. C'est une parole circonstancielle. À un moment, le Seigneur ouvre sa bouche et nous donne sa parole. Et toute parole qui sort de la bouche de Dieu, lorsqu'elle trouve un cœur bien disposé, elle suscite la véritable foi qui amène l'homme à entrer dans l'univers du miracle, qui amène l'homme à expérimenter le surnaturel. Gloire à Dieu. Pierre reçoit la parole, il est avec ses amis. Mais il ne reçoit pas la parole en disant, « Oh, il a parlé spirituellement, il a parlé de manière métaphorique. » C'est une métaphore, c'est une parabole. Non, Pierre a pris le Seigneur au mot. Voyez-vous, Pierre reçoit la parole. Et cette parole amène Pierre, je dis bien cette parole. Ce n'est pas par présomption que Pierre va s'asseoir sur le bord de la barque Il va donc se tourner, il va passer les jambes de l'autre côté de la barre, c'est-à-dire du côté où il y a l'eau, où il y a l'eau qui s'agite. Et puis tout doucement, Pierre s'appuie sur le bord de la barque. Il fait descendre, je voudrais que vous puissiez visualiser cela. Il fait descendre ce pied, lentement mais sûrement, vers les eaux qui étaient toujours en mouvement, n'est-ce pas? Et puis ses pieds touchent cette eau agitée, cette eau liquide, hein? Et là, quelque chose se passe. Ce qui aurait dû l'engloutir, tout d'un coup, devient comme un tarmac, un tapis dur. Pierre se tient debout. Il a les yeux fixés sur son Seigneur. Alléluia. Il a la parole. Tout en lui est en train de vibrer au rythme de la parole du Christ. C'est un feu, cette parole. La parole qu'il a reçue, eh bien, est devenue un moyen qui a porté Pierre. Attention, nous le verrons. C'est là que nous arrivons à la définition. Et le but, c'est celui-là, de ce que nous entendons par la foi suscitée par le Réma. Hop, formidable. Pierre met ses pieds sur les eaux et commence à se diriger vers Jésus. Première illustration. Alors, tous les caméras vont être braqués ici. Oh, alléluia. Je voudrais que nous puissions visualiser. Voilà, la mer agitée. Vous voyez ? La mer agitée. Mais Pierre est descendu dans cette mer, non pas par présomption, non pas simplement en disant « je crois en Jésus ». Suivez-moi bien. Mais il est descendu sur injonction. La foi vient de l'écoute. Et l'écoute vient du réma du Christ. Quand il pose ses pieds, la pierre est là. On ne montre pas la caméra. Dis, viens ici. Allez. Monte vite. Vous voyez la pierre? Elle est en train de frotter, hein? De flotter, hein? Monte. Maintenant, je parle le lingala alors que tout le monde me suit à travers le monde. Donc, vous voyez cette pierre? Elle est un peu claire, hein? C'est comme ça qu'elle... Mais elle flotte, hein? Oui ou non? Maintenant, je vous dis, n'allez pas dire, oh, le pasteur Bond a une puissance de faire flotter des pierres dans l'eau ou sur l'eau. Non, c'est une pierre avec une structure spongieuse. Vous voyez? C'est ce qui permet à cette pierre de flotter. Vous voyez? C'est ça. Si je l'enlève ici, je la mets là, pour ceux qui sont ici, eh bien, c'est la même chose. La pierre est en train de flotter. Le miracle a lieu. Pierre est portée par l'eau. Comment expliquer? Naturellement parlant, c'est impossible, n'est-ce pas? Eh bien, tout ceci va à l'encontre de lois physiques. Mais qui a établi les lois physiques? C'est le Seigneur. Il est le seul à aller à l'encontre de ces lois physiques. Gloire au Seigneur, alléluia. Eh bien, quand Pierre, à l'instar de cette pierre spongieuse, vous voyez, flotte, ou du moins marche, sur l'eau agitée, cela suscite un concert d'exclamations. Évidemment, dans le bateau, on entend « c'est incroyable, c'est formidable ». Comment cela est-ce possible? De mémoire de Juifs, on n'a jamais entendu dire, même vu, que quelqu'un ait marché sur les eaux. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas marché sur l'eau à travers toute l'histoire de l'humanité que cela est devenu avec le temps une impossibilité. Ce n'est pas parce que Dieu n'a jamais fait ça tu ne pourras jamais le faire. Ne limitons pas Dieu. Pierre est là, sur l'eau. Gloire au Seigneur. Comment est-ce possible? Eh bien, on passe d'un niveau de surréalisme à un autre niveau de surréalisme. Comme je l'avais souligné la fois dernière, eh bien, on nage en plein surréalisme. D'abord, le premier récit sur la multiplication des pains, c'est que quoi? C'est qu'avec 5 pains et 2 poissons, le Seigneur a nourri une foule nombreuse. C'est surréaliste, oui ou non? Et puis ici, un autre niveau de surréalisme. C'est d'abord le Seigneur lui-même qui marche sur les eaux agitées de la mer. Et puis ensuite, c'est Pierre qui marche, mes amis, sur les eaux de la mer. Tous les disciples à bord retiennent leur souffle. Mes amis, encore une fois, tout est possible à celui qui a la foi dans la parole du Christ. La parole du Christ reste créatrice. La parole du Christ est une véritable source de puissance inouïe, puissance de guérison, puissance de délivrance. Elle peut ouvrir n'importe quelle porte, même les portes blindées. Tu es enfermé dans une caisse. Eh bien, ne tourne pas de regards inquiets. Cherche le remède de Dieu quand il te donnera cette parole. Eh bien, c'est cette caisse dans laquelle on t'a enfermé finira par sauter. Avec une seule parole prononcée sous l'inspiration du Seigneur. Gloire à Dieu. Avec la foi suscitée par le rhéma du Christ, mes amis, nous pouvons triompher de toute adversité. Pierre s'est lancé dans cette aventure par obéissance à la parole, par obéissance au rhéma qu'il venait de recevoir de la part de Jésus. Cette parole vient, dite par Jésus, comme je l'ai souligné, était destinée à Pierre et non pas à tout le monde. Encore une fois, le rhéma est une parole personnelle. Oh, alléluia. C'est Pierre qui a fait la requête, oui ou non. Et le vendredi dernier, nous avons prié ici, demandant au Seigneur de nous donner le rhéma dont nous avons besoin dans notre situation particulière. Lui a marché sur les eaux agitées de la mer. Quelle expérience extraordinaire! Toi, c'est peut-être autre chose, mais Jésus reste le même. Peu importe la nature des problèmes, peu importe la nature des difficultés, peu importe ce qui fait agiter ta vie, tu peux demander au Seigneur de te donner le rhéma. Et quand tu l'auras reçu et que tu l'auras proclamé, crois-moi, aucune maladie ne résisterait. Aucune adversité ne resterait éternellement devant vous. Le rhéma, gloire à Dieu. Notre ami Pierre, pour revenir à lui, a donc débuté cette expérience avec une confiance totale et entière dans la parole du Christ, dans cette parole que le Seigneur lui a adressée, dans ce rhéma qu'il lui a donné. Un simple mot vient, a suffi. Il n'a pas besoin de prononcer des formules abracadabrantesques pour pouvoir manifester sa puissance. Un seul mot de sa part suffit. Dis un mot, Seigneur. Dis seulement. Telle a été la requête de Pierre. Et il a dit un mot. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il a dit? Viens. Pierre commence à marcher sur les eaux par la foi. Et au cours de cette marche, chemin faisant, Pierre va se laisser gagner par le doute. Voyez-vous? Chemin faisant, Pierre va se détourner de Jésus-Christ pour regarder aux éléments qui l'entouraient et qui étaient une véritable menace pour lui. Et là, Pierre a commencé à s'enfoncer. Je dis bien à s'enfoncer, à être submergé. Un rocher, c'est ça le nom de Pierre. Kephas, en araméen, pierre, ou rocher, ou roc. Un roc, un rocher, qui s'enfonce, mes amis, lentement dans l'eau. Comment est-ce possible? Encore une fois, cela défie notre imagination, n'est-ce pas? Qu'arrive-t-il à une pierre qu'on dépose sur la surface de l'eau ou qu'on jette dans l'eau? Eh bien, qu'on dépose la pierre sur la surface de l'eau ou qu'on jette la pierre dans l'eau, le résultat est le même. La pierre s'enfonce, non pas progressivement, mais la pierre s'enfonce d'un coup. Regardez, c'est une pierre, c'est la flotte, hein. Regardez l'autre. Je dépose lentement sur la surface. Qu'est-ce que la pierre fait? Mais Pierre est un roc. On va expliquer que Pierre, au lieu de couler tout d'un coup, mais s'enfonce lentement. Mes amis, il se passe ici, à ce moment précis, où Pierre commence à couler, à s'enfoncer progressivement, lentement, il se passe quelque chose de très puissant qui va, mes amis, nous faire comprendre ce qu'est la foi générée, suscitée par le rhéma du Christ. Cette foi donc qui a permis à Pierre de marcher pendant un temps sur les eaux de la mer de Galilée. Revenons à notre histoire. Ayons toujours en tête que Pierre est en train de s'enfoncer tout doucement. Voyez? Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Hein? Eh bien, quelque chose de puissant est en train de se passer. Revenons à notre histoire et posons-nous cette question, afin de comprendre ce que c'est le rhéma, ou du moins la foi suscitée par le rhéma. Qu'est-ce qui est arrivé à Simon-Pierre, premièrement, au point d'être arrêté dans son expérience de la marche sur l'eau et commencer à couler progressivement, lentement? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, nous l'avons vu, il est sorti du bateau, il a commencé à marcher, porté par le rhéma. Mais le rhéma lui-même, attention, n'est pas une force qui transforme l'homme en un petit dieu. Non. Non. Il a commencé à avancer. Et puis tout d'un coup, l'homme s'immobilise. Il se détourne de Jésus et regarde le vent de plus en plus fort. Il regarde les vagues de plus en plus puissantes qui s'abattent contre leur barque, mais aussi contre ses pieds. Il est sur l'eau, non? Oui. Ses yeux et son cœur, après s'être détourné du Christ pour poser ce regard sur ces éléments déchaînés de la nature, eh bien son cœur et ses yeux finissent par s'emplir de panique, de peur. Toute son attention désormais est tournée, focalisée, mes amis, captivée par les circonstances qui l'environnent. Et c'est des circonstances dangereuses. Et c'est là qu'il se met à couler doucement, à s'enfoncer lentement, comme s'il se tenait sur la boue. Avez-vous déjà fait l'expérience d'aller là où il y a la boue, là, ou même du sable mouvant? Voyez-vous, vous n'êtes pas absorbé tout de suite. Hein? Quand vous appuyez sur la boue, vous vous enfoncez tout doucement. Or, jusque-là, le ciel de Pierre était fixé sur Jésus. Jésus qui nous est révélé comme étant l'initiateur et l'accomplisseur de la foi. Oh, alléluia. Celui qui l'initie, c'est-à-dire celui qui la suscite. C'est ce qui est arrivé en Pierre, en recevant cette parole, en recevant ce rhéma. Ce rhéma, mes amis, a suscité la foi, voyez-vous. Mais en même temps, c'est Jésus qui est appelé à mener cette foi à son accomplissement. C'est-à-dire, il est l'initiateur et l'accomplisseur de la foi. Ça veut dire que la foi n'est pas une force qui tombe sur nous lorsque nous recevons le rhéma, au point de nous transformer en des êtres surnaturels. Où nous dirions simplement un mot, allez, tombe, et il tomberait. Fais ceci, et la chose arriverait. Pas du tout, mes amis. Ce passage nous révèle, donc d'Hébreux 12, verset 1er, courons, rejetons le fardeau du péché, etc., et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, et le verset 2 nous dit, les yeux fixés sur qui? Les yeux fixés sur qui? Et qui est ce Jésus? La Bible continue, l'initiateur, si on peut nous remettre encore ce passage de Hébreux 12, l'initiateur de la foi est celui qui l'amène à la perfection. Littéralement, ce sont deux statuts du Seigneur qui sont là, qui nous sont révélés. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi qui l'amène à la perfection. Mais littéralement, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'initiateur et l'accomplisseur de la foi. C'est une chose de commencer cette expérience par la foi, c'est une autre de demeurer dans cette expérience par la foi. Alléluia, gloire à Dieu. Mes amis, la foi initiée par Jésus en réponse à son rhéma dépend de Jésus du commencement jusqu'à la fin. C'est là que je dis, nous devons faire très attention. La foi ne fait pas de nous des êtres surnaturels. La foi ne fait pas de nous des petits dieux où nous dirions une chose et la chose deviendrait une réalité. Pas du tout, mes amis. En cours de son expérience, Pierre s'est détourné du Seigneur et de sa parole pour river ses yeux, pour fixer ses yeux sur le vent qui était de plus en plus fort et sur les vagues qui étaient de plus en plus menaçantes. Donc il y a eu glissement. Oh, alléluia. Il y a eu glissement. Mais entre-temps, cette parole était où? Mais il l'avait déjà reçue, non? Il y a eu glissement. C'est là ce qui nous amène à une des compréhensions de la foi, mes amis, qui est importante et fondamentale. Alors qu'il commençait à couler, cet homme s'est écrié, « Seigneur, sauve-moi !» Et le Seigneur va étendre sa main, il va saisir Pierre, il va le faire remonter, non pas dans le bateau, hein. Ils sont encore en dehors de la barque. Il va le faire remonter sur la surface. Oh, alléluia! Il est là. Pierre regarde le Seigneur. Et le Seigneur, avec une autorité affectueuse, il lui dit, « Homme de peu, pourquoi as-tu douté ?» De quoi a-t-il douté ? Mes amis, tant que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, eh bien, il continuait à marcher sur l'eau. Mais chemin faisant, cet homme a ouvert la porte à l'incrédulité, au doute, et il a commencé à couler. Pour mieux comprendre cette foi qui a permis à Pierre de marcher sur les eaux, posons-nous cette question. Alors je vais y aller maintenant tout doucement, parce que c'est ça le cœur de notre message. Posons-nous cette question. Quand Pierre est sorti de la barque, il s'est assis sur le rebord de la barque, il a passé les jambes de l'autre côté, il les a fait descendre jusque sur l'eau, et puis s'est mis debout. Il a commencé à marcher sur l'eau. Qu'est-ce qui le maintenait à la surface de l'eau? Qu'est-ce qui maintenait Pierre à la surface? Eh bien, on pourrait rapidement répondre, c'était la foi de Pierre. Non, 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 ce n'est pas juste. La foi de Pierre, ce n'est pas ce qui l'empêchait de couler, c'est Jésus, et Jésus seul. Le rhéma qu'il a reçu
n'a pas donné à Pierre une certaine puissance de marcher contre les lois établies par Dieu. C'est la confiance dans la parole du Christ. En se reposant sur cette parole, il a dit, viens. Eh bien, cette parole a porté Pierre. La puissance de cette parole a transformé la nature liquide de l'eau en un tapis sous forme d'un tarmac qui a porté Pierre. Qu'est-ce que Jésus a fait, mes amis? Jésus a seulement honoré la foi de Pierre en ordonnant à l'eau de le porter. Alléluia. Pierre est descendu par la foi. Eh bien, le Seigneur a honoré sa foi. Et pour marcher sur l'eau, Pierre n'avait aucun pouvoir de dire à l'eau, maintenant, tu vois, je marche là au nom de Jésus. Non! Dieu, le Seigneur honore la foi de Pierre en ordonnant à l'eau de le porter. La Bible nous dit, la guérison se trouve où? Hein? La guérison se trouve en Christ, oui ou non? Le salut se trouve en? La délivrance se trouve en? Ça veut dire que tout est en Christ, mes amis. Quand nous recevons la foi pour être guéris, il est facile de dire, oui, ma foi m'a guéri. C'est une manière de nous dire. Mais ce qui arrive, c'est que la guérison est toujours en Jésus. Jésus a simplement honoré la confiance que nous lui avons manifesté en croyant à sa parole qui nous dit que nous sommes guéris par ses meurtrissures. Donc, Jésus est au commencement de la foi, suscité par le réma. L'initiateur, Jésus est à la fin de cette foi, c'est-à-dire l'accomplisseur. Entre les deux, c'est encore lui. Alléluia. Donc, à un moment, Pierre, tout en ayant entendu cette parole, la même parole qui l'a amené à marcher sur les eaux, à un certain moment, a commencé à douter, à regarder plus au danger. Et par rapport au danger, il s'est vu tout petit. Il s'est dit, mais c'est fini, je vais mourir. Voyez-vous, il y a eu glissement, il y a eu un déplacement. Marcher sur l'eau veut dire qu'à un moment donné, et par un miracle quelconque, l'eau n'agit plus selon sa nature. La nature de l'eau, c'est d'absorber tout ce qui tombe sur elle, n'est-ce pas? Mais il y a eu, à un moment donné, un miracle qui a fait que malgré sa nature, cette eau a porté Pierre. Donc, tout en gardant son caractère, son aspect liquide, il y a eu donc une puissance à la base de ce miracle qui a rendu possible le fait qu'un homme puisse marcher sur l'eau. Et la question est celle-ci. Qui est à la base, à l'origine de cette puissance extraordinaire, qui a transformé la surface de l'eau, d'une eau agitée, en un tarmac qui a permis à Pierre de marcher dessus? Est-ce la foi de Pierre? C'est Jésus. Alléluia. La guérison est en Jésus. Ce qu'il fait, il honore simplement notre foi dans l'œuvre qu'il a accomplie. Il ordonne à la maladie de partir. Nous n'avons aucun pouvoir. Notre pouvoir est en Christ. Quand nous chassons les démons, il n'est pas dit que nous sommes des petits dieux qui ont acquis une certaine expérience. Non, nous chassons les démons parce que nous proclamons la parole du Christ. Et lui honore notre foi dans cette parole, et les démons partent. Gloire à Dieu. Donc, mes amis, la foi ne nous transforme pas en des êtres supérieurs capables de briser les lois de la nature. Ou la foi, mes amis, ne transforme pas nos pensées en des réalités matérielles. Oh, ça aurait été facile, hein? Nous avons la foi, et puis tout d'un coup, je pense à une voiture, à une voiture, à une voiture, je veux une Jaguar, je veux une Jaguar, je veux une Jaguar, je veux, au nom de Jésus, je veux une Jaguar. Eh bien, ben, nous aurions eu une Jaguar. Hein? Ce n'est pas ça la foi. Hein? Voyez-vous? On ne peut pas, nous n'avons pas cette capacité de transformer nos pensées en réalité matérielle. C'est-à-dire, nous regardons le pain, nous disons, bon, nous sommes à la maison à 10,
au nom de Jésus, que ce pain se multiplie au nom de Jésus.
Nous n'avons pas cette capacité. Nous pouvons être remplis du Saint-Esprit jusqu'aux dents. Nous pouvons avoir une onction au point où tout le monde la sent. Même à 100 lieues de nous, il y a l'onction là. Mais nous ne serons jamais capables, mes amis, d'être des créateurs. Celui qui est en nous, qui est capable de tout. J'avais lu l'histoire de quelques filles qui revenaient d'une réunion spirituelle. Je ne sais pas si c'était une campagne d'évangélisation. L'histoire s'est passée en Corée du Sud. Ces filles-là revenaient donc de cette réunion très enthousiastes et tout ça. Et sur le chemin du retour, elles sont tombées sur une rivière en crue avec de forts courants. Alors elles se sont arrêtées. Quelques-unes d'entre elles ont pensé à l'histoire de Pierre. Ils se sont dit, mais Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, non? Mais le même Jésus qui a ordonné à Pierre de marcher sur les eaux de la mer de Galilée est notre Jésus. Donc nous aussi, nous pouvons, écoutez bien, nous pouvons marcher. Voilà. Elles se sont détachées du groupe, je ne sais pas combien elles étaient, deux ou trois, fortes de cette conviction que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais c'est vrai, oui ou non? Que Jésus reste le même Jésus que Pierre avait servi et qu'elle servait, c'est vrai. Alors, elles se sont lancées dans l'aventure, elles ont toutes été emportées, elles ont toutes péri. Et cela avait jeté un discrédit sur l'évangile du Christ. Vous voyez, mes amis, la foi ne nous octroie pas un pouvoir qui fait de nous de petits dieux capables de s'auto-guérir. On retrouve, par exemple, dans le monde avec la poussée du New Age, le pouvoir de la pensée positive. Vous avez déjà entendu ça, hein? Qui transforme les gens en de petits dieux. Voilà. Vous êtes malade. Vous pensez simplement à la guérison. Je suis guéri. L'autosuggestion, l'auto-guérison, attention, ce n'est pas ça la foi. La foi, mes amis, eh bien, a pour initiateur le Seigneur Jésus, a pour accomplisseur le Seigneur Jésus. Elle repose en tout sur la puissance de la parole du Christ. Certes, c'était des chrétiennes, ces sud-coréennes. Jésus était en eux. Mais ce n'était pas cette foi. Elles avaient une compréhension qui n'était pas vraie de la foi. La foi, ce n'est donc pas un pouvoir, ou la foi ne nous octroie pas un pouvoir qui nous amène à changer les circonstances difficiles dans notre vie. Tout ne va pas, la pauvreté, ceci. Ok, on commence à confesser. Je confesse possible. J'entends souvent des gens faire des déclarations, mais pour autant que derrière ces déclarations, qu'il y ait le Seigneur. Car même le diable peut faire des déclarations. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, mais oui, hein. À Philippe, cette fille qui était possédée par un esprit démoniaque, l'esprit de Python, à un moment a dit, c'est pointant Paul et ses amis, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Était-ce la vérité? Mais oui. Ils n'étaient pas des idolâtres, ils étaient au service du Dieu très haut, hein. Et pourtant, c'était un esprit démoniaque. Jusqu'au jour où Paul excédé va donc chasser cet esprit de cette femme. C'était un esprit de divination et cette femme va être complètement délivrée. Mes amis, un seul peut dire un mot et la chose devient une réalité. Un seul peut commander à la maladie et la maladie disparaît. Un seul peut commander à une porte qui est restée verrouillée, plombée, de s'ouvrir et la porte s'ouvrira. Voilà pourquoi la Bible nous dit que quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand il la ferme, personne ne peut l'ouvrir. Mes amis, nous arrivons à la définition et je terminerai par là aujourd'hui. La première leçon à propos de la foi suscitée par le Réma, c'est que mes amis, croire, ce n'est pas avoir foi dans la foi en Christ. Croire, ce n'est pas avoir foi dans la foi en Christ. Ces jeunes filles qui s'était aventuré dans les eaux d'une rivière en crue, elles ont cru que la foi, le miracle et tout ça, eh bien, repose sur la foi que nous avons en Christ. Non, c'est ça l'erreur. Voyez-vous, ah mais je suis chrétien, donc je peux ceci. Non, la foi c'est quoi? Croire c'est quoi? Croire, c'est avoir une confiance totale, entière, dans la puissance des paroles de Jésus. C'est tout. Jésus a dit, viens, je crois dans la puissance de cette parole, je quitte la barque et je vais le rejoindre là où il est. Je sais que sa parole est puissante pour transformer l'eau en liquide, en un tarmac qui me permette de marcher pour aller le rejoindre. Alléluia. Croire, eh bien, c'est mettre sa confiance dans la parole qui sort de la bouche du Seigneur et non pas mettre notre confiance dans des pensées concernant Jésus. C'est ce que j'appelle avoir foi dans la foi en Christ. Un autre exemple pour comprendre. Pierre, Paul, il est dit dans 2 Corinthiens, je crois chapitre 12, que le Seigneur, pour permettre à Paul de rester humble, de ne pas s'enorgueillir à cause de la connaissance, de l'excellence qu'il avait, de la connaissance de la parole de Dieu, il lui avait été mis dans le corps une écharpe, un ange de Satan chargé de le frapper ou de le souffleter. Qu'est-ce que Pierre et Paul avaient fait par rapport à cette situation? Écoutez, il a dit ceci, j'ai prié, même pas prié, j'ai supplié. Donc cette situation a traîné. Connaissant Paul, c'était un pentecôtiste. S'il avait chassé le démon qui possédait cette fille à Philippe, l'esprit de Python, mais ne pouvait-il pas chasser aussi cet ange du Satan qui lui faisait du mal? Ne pouvait-il pas avoir la foi? Est-ce que Paul avait la foi? Mais il a supplié le Seigneur. Seigneur, aide-moi, je n'arrive pas à me débarrasser, c'est douloureux. Voyez-vous, Paul n'a pas eu foi dans sa foi en Christ. Il a supplié. Écoutez ce que le Seigneur lui a dit. Ma grâce, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. En d'autres mots, reste comme tu es. C'est ça la foi. Il a reçu cette parole qui lui a permis, mes amis, d'accepter cette situation difficile. Il a obéi. Ma grâce te suffit. Parce que ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Et Paul a compris que pour que la puissance du Christ se manifeste en lui, il fallait qu'il reste au pied de la croix. Il fallait qu'il reste brisé. Il fallait qu'il soit maintenu par une situation difficile. Et cette situation, c'était ça. Voyez-vous, plus d'une fois, il a eu à pleurer. Il aurait pu chasser les démons. Voyez-vous, et les démons ne seraient jamais partis. C'est pas ça la foi. La foi, c'était accepter la volonté du Seigneur dans cette situation. Ma grâce te suffit. Car ma force se manifeste dans la faiblesse. Mes amis, il n'y a que Jésus. Croire, encore une fois, c'est avoir une confiance totale et entière dans la puissance des paroles de Jésus. C'est ce que le Seigneur lui-même a dit au diable. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout réma, c'est encore le mot réma, de tout réma qui sort de la bouche du Seigneur. Cette parole-là va alors susciter en nous la foi. Et en marchant selon cette parole, eh bien, nous manifestons notre confiance dans la puissance de cette parole. Alors, nous verrons le résultat. Car au commencement était quoi? Gloire à Dieu. Elle est au commencement de tout. Alors arrêtons de confondre la foi avec des pensées positives. C'est ainsi que des gens peuvent réciter des versets de la Bible. Vous voyez? Peuvent prendre la Bible. Et on le voit, il y a certains magiciens qui utilisent la Bible pour chasser les démons. Vous avez déjà vu ça, hein?
Ils viennent avec la Bible, quelqu'un est agité par le démon, ou quelquefois avec une croix.
Non, ça, ça devient de la magie. Hein? Cette même Bible est étudiée dans d'autres facultés en dehors des facultés chrétiennes. Voilà. Vous allez chez les bouddhistes, ils veulent connaître le christianisme, mais ils se mettent à étudier la Bible. Mais c'est une étude intellectuelle qui n'amène nulle part. Voyez-vous, jusqu'au jour où le Seigneur ouvre leur esprit, à ce moment-là, ils réalisent qu'effectivement, cette parole est différente de toutes les autres paroles dites sacrées. Donc, encore une fois, lorsque nous réagissons positivement à la parole du Christ comme Pierre, alors cette parole nous porte. Et Dieu honore sa parole en commandant la maladie de partir, car c'est en lui que nous avons la guérison. Il ordonne aux démons de partir, parce qu'en lui, nous sommes ses enfants, et il nous a donné le pouvoir de proclamer sa parole. Si c'était simplement le nom de Jésus comme un nom magique, je vous assure, tout le monde, les féticheurs, les ndokis, ils utiliseraient le nom au nom de Jésus, allez, va là-bas. Et beaucoup en abuseraient. Voilà. Ça ne va pas avec quelqu'un, tu vas jeûner, maintenant j'ai la foi. Tu viens, tu te tiens devant lui, j'ordonne que tu meurs. Nous n'avons pas ce pouvoir. S'il arrive à mourir, alors ce n'est pas le pouvoir du Christ. Voyez-vous? Non, pas du tout. La foi, c'est Jésus qui l'initie, c'est Jésus qui continue à la porter, et c'est Jésus qui l'accomplit. Il est l'initiateur, et Pierre a appris cette leçon. Et nous verrons encore ces mystères d'une pierre qui, au lieu de couler directement, va couler tout doucement. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. On peut enlever les... Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Oh, combien nous aimerions être animés par cette foi suscitée par le Rhéma. Mais cette foi-là, Seigneur, n'est pas une force magique qui tout d'un coup surgit en nous et nous amène à accomplir des choses impossibles que nous ne pouvions pas accomplir autrefois. Mais cette foi, Seigneur, la vraie foi, croire, c'est simplement te faire confiance. Faire confiance dans ta parole, dans la puissance de ta parole. C'est alors que tu honoreras notre foi en rencontrant les besoins pour lesquels tu nous auras envoyés. Envoyé, Seigneur, ce Rhéma. Oh, merci pour tout. Merci, Seigneur. Aide-nous à rechercher ce contact, cette communion avec toi. Oh Dieu, afin que tu puisses, pour chaque situation, susciter en nous le Rhéma. Et que, Seigneur, nous agissions, nous réagissions positivement par rapport à ce Rhéma. Alors tu honoreras notre foi en commandant, Seigneur, des situations adverses et en les transformant en des situations qui nous sont favorables. Tu restes le seul Créateur et nous restons des simples hommes, mais en qui tu habites. Merci pour tout.